L'heure du journal avec vous, Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. Le sommet des BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud s'achève en ce moment. Des poids lourds qui se serrent les coudes sur l'échiquier mondial, mais peut-être s'agit-il plus d'affichage que de réelle solidarité. Nous rejoindrons Noé Hochebaudin à Johannesburg. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, lâché par ses alliés lors du vote budgétaire. Nouveau symptôme d'un mal qui devient endémique, celui de la majorité introuvable. Nous serons en ligne avec Marie-Hélène Ballesteros. La police des polices vient de remettre ses conclusions sur l'affaire Benalla. Il préconise une charte pour mieux encadrer les observations. Antoine Maret a lu le rapport de l'IGPN. Il y aura bien une motion de censure de la gauche commune au PS, les insoumis, les communistes, une sorte d'union de la gauche de circonstance. Explication de texte dans ce journal signé Maïwenn Bordron. Avant de développer ces titres, je vous propose un témoignage éclairant sur la situation au Nicaragua 100 jours après le début d'un mouvement de contestation qui a fait 448 morts. Selon l'association nicaraguayenne pour les droits de l'homme, le régime de Daniel Ortega devient de plus en plus féroce dans sa répression. Une loi antiterroriste, par exemple, entrée en vigueur cette semaine, punit jusqu'à 20 ans de prison ceux qui soutiennent ou participent à des activités anti-gouvernementales. Une peine que, potentiellement, Florence jaugeait en cours. Cette cinéaste vit et travaille au Nicaragua depuis 25 ans et depuis maintenant 3 mois, sa caméra enregistre inlassablement ce qui se passe dans les rues, dans le pays, à ses risques et périls. Témoignage sur un pays en état de siège, Florence Jauget, jointe à Managua par Mathieu Laurent.
Il y a énormément de gens en fuite, énormément de gens qui se cachent. À 5h30, tout le monde est chez soi, les gens ont peur. Il y a une espèce d'état de siège qui n'est pas déclaré. Très honnêtement, je ne pensais pas être témoin d'une guerre, parce que c'est pratiquement une guerre ce qui se passe ici contre le peuple, puisque le peuple est désarmé et lutte à main nue avec des armes artisanales contre un régime lourdement armé. Donc effectivement, je ne pensais jamais qu'on arriverait à cela. Mais je dois dire que ma génération et la génération des gens qui ont vécu la révolution étaient très déçus par la jeunesse en disant oui, ils sont apathiques, ils sont pas organisés, ils font rien. Et puis tout d'un coup, ce sont eux qui nous ont donné une énorme leçon, puisque ce sont eux qui ont mis les premiers morts, ce sont eux qui se sont insurgés les premiers et qui ont entraîné tout le peuple derrière lui, et même le grand patronat, le conseil des entrepreneurs. Donc, ils nous ont donné une grande leçon. Mais il n'y a pas de leader, c'est ça qui est difficile aussi à comprendre. C'est un soulèvement, il n'y a absolument aucun parti, aucun leader dans c'est une coalition, en fait, de personnes qui se disent autoconvoquées, autoconvocados. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes manifester de tous les secteurs et de tous les âges et de toutes les religions et de tous les partis politiques contre ce gouvernement.
Qui reste aujourd'hui aux côtés du couple présidentiel ?
Il a sa famille, il y a la police, les travailleurs de l'État, certains qui sont convaincus que Daniel Ortega est le meilleur président du Nicaragua, de l'Amérique latine et du monde. Aussi, certains travailleurs de l'État qui n'ont pas le choix parce qu'ils ne veulent pas perdre leur travail. Donc, ils sont obligés de suivre les manifestations en faveur du régime. Il y a beaucoup de sandinistes qui ont fait la révolution, qui sont sandinistes, mais qui ne sont pas ortéguistes.
Le témoignage de Florence Jauget à Managua, recueilli par Mathieu Laurent. Daniel Ortega, le président, quant à lui, écarte pour l'instant toute idée de quitter le pouvoir avant le terme de son mandat en 2021. Le sommet des BRICS s'achève donc à Johannesburg. Les dirigeants du Brésil, de la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud se sont retrouvés plusieurs jours durant, des pays qui représentent 42% du produit intérieur brut mondial. Dans une déclaration commune, ces dirigeants s'inquiètent des conséquences des mesures macroéconomiques prises dans certaines grandes économies avancées, visant les États-Unis, bien sûr, sans les nommer. Noé Hochebaudin, bonsoir. Vous êtes en direct de Johannesburg. Vous avez suivi ce sommet. Est-ce qu'on peut dire que finalement, les dirigeants des BRICS se sont plutôt livrés à des effets de manche ?
Oui, il y a des effets de manche, car lorsque Xi Jinping, le président chinois, ouvre le 10e sommet des BRICS mercredi, il s'oppose aux menaces que fait planer Donald Trump sur le commerce international. Il parle d'un défi, d'une confrontation lancée par le président américain. Les 5 puissances émergentes ont d'ailleurs multiplié pendant 3 jours les appels au multilatéralisme. On pense alors à l'annonce d'un basculement de l'ordre mondial, comme l'a dit le président chinois, avec une union des pays des BRICS face aux géants américains. Mais lors de la signature de la déclaration de Johannesburg, signée hier, pas d'engagement fort. Brésil, Chine, Afrique du Sud, Inde et Russie se sont contentés de rappeler le besoin d'une plus grande coopération économique, en particulier à l'approche de la quatrième révolution industrielle, le thème de ce sommet. Et en réalité, les pays se sont plus focalisés sur des rencontres bilatérales à huis clos pour signer des partenariats commerciaux. Il y a cependant une nouveauté à noter cette année, celle de l'intégration du continent africain avec le premier forum BRICS Afrique. À Johannesburg étaient en effet présents près de 20 chefs d'État du continent, là aussi principalement pour signer des accords bilatéraux avec les puissances émergentes.
Noé Ochebaudin, merci, vous étiez en direct de Johannesburg. Décidément, l'Espagne demeure un pays difficilement gouvernable. Pedro Sánchez, le chef de gouvernement, en fait les frais. À son tour, son parti, le PSOE, le parti socialiste, ne compte que 84 sièges de députés sur 350. Il n'a pas pu former son gouvernement, après la chute du conservateur Mariano Rajoy, qu'avec le soutien massif d'alliés de circonstances. Des alliés qui lui font défaut aujourd'hui. Deux partis catalans de gauche et Podemos se sont abstenus sur un vote budgétaire, un texte qui prévoit en effet une nouvelle réduction des déficits. Marie-Hélène Ballesteros, bonsoir.
Bonsoir Ezequiel.
Vous êtes en direct de Madrid, bien sûr. La malédiction de la majorité introuvable a donc encore frappé ?
Eh oui, c'est bien ça. Et comme vous le disiez, c'est un dur revers aujourd'hui pour l'exécutif socialiste de Pedro Sánchez qui a été lâché par les formations qui l'ont soutenu pour accéder au pouvoir et renverser le gouvernement Rajoy début juin, à savoir les indépendantistes catalans de ERC et du PDCAT ainsi que la formation de Pablo Iglesias Unidos Podemos qui ont décidé donc de s'abstenir aujourd'hui. Alors seuls les nationalistes basques ont soutenu aujourd'hui le gouvernement Sánchez au Congrès des députés, soit 88 voix pour, 173 contre, 86 abstentions. Cela montre à quel point le nouvel exécutif espagnol est minoritaire et fragile et dépend complètement du soutien des autres formations pour voter chaque loi au Parlement. Concrètement, le gouvernement Sánchez voulait faire approuver aujourd'hui par les députés son objectif de déficit public qui avait été revu à la hausse récemment et présenté aux partenaires européens par la ministre espagnole de l'économie, ainsi que l'augmentation de la limite des dépenses de 4,4%. Deux mesures qui ont donc été rejetées ce matin par les députés. À droite, PP et Ciudadanos accusent le gouvernement Sánchez de ne pas vouloir respecter, comme dans le passé, la discipline budgétaire. Et à gauche, au contraire, Unidos Podemos souhaiterait que l'exécutif de Sánchez aille beaucoup plus loin dans les dépenses et les mesures anti-austérité. Dans ce contexte, donc, les discussions autour du projet de loi de finances 2019 s'annoncent très compliquées et le gouvernement Sánchez va avoir beaucoup de mal à sortir de l'impasse.
Merci beaucoup Marie-Hélène Ballesteros en direct de Madrid. Dans l'affaire Benalla, trois enquêtes sont menées, vous le savez, simultanément, judiciaires, parlementaires et administratives. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, vient de rendre son rapport cet après-midi. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir.
Que peut-on retenir de ce rapport de la police des polices ?
Alors d'abord, précisons que c'est un rapport qui a été demandé à la police des polices par Gérard Collomb pour tenter de déceler les dysfonctionnements lors de cette manifestation du 1er mai, d'en comprendre les causes et d'en tirer les leçons. Ce rapport de l'IGPN met en cause d'abord Alexandre Benalla et Vincent Crase, dont il apparaît que le comportement interventionniste a provoqué l'incident place de la Contrescarpe. Il n'y avait pas eu dans le passé d'autres incidents signalés avec des observateurs. On s'en tenait donc jusqu'à présent à des règles de bon sens. Le rapport montre également du doigt le chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public et de la circulation, Laurent Simonin, qui n'a pas évoqué avec son supérieur hiérarchique la présence d'Alexandre Benalla. À l'inverse, l'IGPN décharge le major de police chargé d'accompagner Alexandre Benalla face à la tournure des événements. Il avait paru embarrassé, ce que la police des polices justifie par son grade insuffisant. Il ne concevait pas de faire la moindre observation à celui qui était à ses yeux un personnage de première importance. On apprend également dans ce rapport que, contrairement à ce qu'il a affirmé dans Le Monde, c'est bien Alexandre Benalla qui a demandé à venir observer la manifestation, on ne le lui a pas proposé. Et deuxième chose, il est venu accompagné de Vincent Crase, ce qui n'était pas prévu, mettant devant le fait accompli l'accompagnateur d'Alexandre Benalla. Face à ces constatations, l'IGPN fait plusieurs propositions. Que les futurs observateurs portent un insigne distinctif qui permette de ne pas les confondre avec les forces de l'ordre. Que leurs conditions d'accueil fassent l'objet d'une charte, qu'ils signent une convention. La police des polices propose donc de formaliser davantage ses missions d'observateurs. Le ministre de l'Intérieur en a pris acte et donnera la semaine prochaine ses instructions aux préfets directeurs généraux.
Merci Antoine Maret. Il faut donc créer un corps d'observateurs des observateurs. Ce que les ordonnances travail ou la réforme de la SNCF ne sont pas parvenus à faire, il semblerait que l'affaire Benalla y parvienne, c'est-à-dire faire réagir la gauche d'une seule voix. Après la motion de censure contre le gouvernement déposée par les Républicains, c'est donc au tour des députés socialistes, insoumis et communistes d'en proposer une autre. La tâche n'a pas été simple, il a fallu s'accorder sur un texte commun. Aucun parti n'a pu faire cavalier seul, puisque 58 signataires sont requis pour le dépôt d'une motion de censure. Le PS compte 30 députés dans son groupe, la France Insoumise 18. L'alliance était donc totalement nécessaire. Alors qu'on pouvait s'attendre à quelques tensions au sein de la gauche parlementaire, les partis ont finalement réalisé, Maïwenn Bordron, des compromis.
La motion de censure des gauches était encore à l'état de projet ce matin. Un projet très incertain. La France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste y étaient favorables sur le principe. Mais le défi était de taille. Il fallait s'entendre, vous l'avez dit, sur un texte commun, puis désigner, c'est là le problème, l'orateur chargé de le défendre lors du vote mardi à l'Assemblée. Le projet aurait pu capoter. Le PS considérait que cette tâche lui incombait au vu de sa supériorité numérique à l'Assemblée. 30 députés socialistes contre 18 insoumis. Valérie Rabault, la présidente du groupe Nouvelle Gauche, pouvait donc légitimement prétendre à cette mission. Un scénario inenvisageable pour la France Insoumise. Le message était clair, hors de question que le PS représente le point de vue des insoumis à l'Assemblée. En pleine impasse, une issue de secours a finalement été trouvée du côté de Jean-Luc Mélenchon. D'habitude, peu enclin au compromis. Le chef de file de la France Insoumise a proposé que la décision se fasse par tirage au sort, arguant qu'il comprenait que le Parti Socialiste n'ait pas envie de donner soudain l'impression d'une conversion à sa personne. Après plusieurs heures de tractation, le choix s'est finalement porté sur André Chassaigne, le président du groupe communiste et apparenté. Un dénominateur commun pour présenter la motion de censure des gauches mardi à l'Assemblée. L'entente semble donc cordiale face à l'affaire Benalla, mais certains, comme le patron du PS, Olivier Faure, mettent déjà en garde. Le chemin est encore long, très long, avant d'acter le retour de l'union de la gauche.
Merci Maïwenn Bordron. Le trafic est interrompu en ce moment à la gare Montparnasse à Paris et le restera d'ailleurs jusqu'en fin de journée. L'incendie sur un poste électrique de RTE, réseau de transport d'électricité, paralyse complètement la circulation des trains et cela depuis midi moins quart. Une interruption qui intervient en plein chasse et croisée, vous le savez, des vacanciers entre juilletistes et aoussiens. 20 millions d'euros, c'est le montant de l'amende infligée par l'autorité de la concurrence à Fnac Darty. La raison, c'est que le groupe n'a pas vendu à temps 3 des 6 magasins qui devaient être cédés après la validation du rapprochement entre les deux enseignes. Cela devait être fait avant le 1er août 2017. La haute autorité ordonne à Fnac Darty de céder deux autres établissements, deux autres magasins. Elle estime que de ne pas les vendre nuit à la concurrence et limite le choix des consommateurs. Fnac Darty a annoncé que toutes les voies de recours seront explorées pour contester le montant de la sanction jugée disproportionnée. La disparition maintenant d'un aventurier. Un aventurier de la presse, écrivain, poète, Michel Butel, disparu à l'âge de 77 ans. Une voix que vous avez pu souvent entendre sur France Culture. Dans les années 80, il avait été à l'origine de l'autre journal, publication qui mêlait journalisme et littérature. Écoutez sa voix.
Sous leur voix, écoutez bien leur voix d'avant, de jeunes filles et de jeunes hommes, leur voix de très jeunes gens. Écoutez leurs intonations de désir, de passion. Écoutez l'accent de leur immortelle jeunesse. Premier entretien.
Voilà le bruit du magnétophone. Cet entretien, en fait, il est célèbre. C'est l'entretien entre François Mitterrand et Marguerite Duras qu'avait organisé à l'époque Michel Butel. C'était en 1985, une série d'entretiens publiés dans l'autre journal, puis réunis dans un livre chez Gallimard. Et en 2006, il en avait proposé un montage sonore à France Culture. Il a mené bien d'autres aventures éditoriales jusque dans les années 2010. Voici l'extrait d'un entretien sur France Culture. Toujours, Michel Butel venait de publier le deuxième numéro de son dernier journal, L'Impossible. L'occasion d'évoquer en quoi, selon lui, l'aventure collective était importante.
Un journal, c'est d'emblée politique. Ça ne peut pas échapper, non pas au domaine de la politique, au monde abominable de la politique, mais c'est d'emblée politique. Et puis, c'est une considération. Il y en a une seconde qui est originelle, c'est qu'un livre, c'est la solitude. Un livre, c'est une personne absolument désespérément et heureusement seul. Et un journal, non, c'est à plusieurs. Je peux pas parler autrement si je parle avec sincérité de ce qu'est un journal pour moi, de dire un journal, c'est lié à l'amitié. Les discordes, il y en a toujours dans les histoires d'amitié, d'amour, dans les histoires de travail ensemble, etc., dans les projets politiques. Mais les discordes, y compris extraordinairement violentes, et je vois pas comment elles le seraient pas, s'il y a la sincérité et la loyauté, justement, elles le sont à ce moment-là. Mais les discordes, elles ne contreviennent en rien à la perpétuation des sentiments d'origine. Le présent n'insulte, ne porte jamais atteinte au passé. C'est une folie de croire ça. Et donc le journal, en mon âme et conscience, comme on dit, l'impossible, si différent de l'autre journal, je le continue avec ceux qui ont habité l'autre journal et qui ont créé avec moi l'autre journal.
Michel Butel, disparu à l'âge de 77 ans. 18 départements en vigilance orange à la canicule, 10 autres en vigilance orange aux orages. La situation est donc chaotique et va le devenir encore plus. Le bon côté de la chose, c'est que les températures vont être plus fraîches demain. On respirera un peu mieux. Fin de cette édition préparée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal 22h avec Clarence Rodriguez.